عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. On s'arrêtait la dernière fois, donc toujours dans la bataille de Uhud, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On s'est arrêté au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être gravement blessé dans la bataille. Donc on avait expliqué qu'il y avait une série de confusions qui ont conduit à ce que la bataille bascule d'une victoire pour les musulmans vers une défaite. Et les principaux événements de cette bataille qui ont conduit à cette bascule, c'est tout d'abord que la plupart des archers ont quitté le mont des archers, que la cavalerie de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui à l'époque est encore un idolâtre, va contourner ce mont des archers pour prendre à revers l'armée des musulmans. Et ainsi, l'armée des musulmans va être prise en étau, ceux devant et ceux derrière. La cavalerie de Khalid ibn al-Walid, ils sont 200 cavaliers, ils vont, au moment où ils vont réussir à contourner le mont des archers, faire un cri source, une sorte de code secret qu'ils avaient mis en place au cas où ils arrivent justement à contourner le mont des archers, pour prévenir les idolâtres qui sont devant qu'ils arrivent par derrière, pour qu'ils puissent faire leur plan de prendre en étau l'armée des musulmans. Ensuite, parmi ce qui a conduit à cette confusion également, c'est le fait que les musulmans qui vont se retrouver en étau vont chercher du regard les archers. Ils ne voient plus d'archers sur le mont des archers. Ils vont chercher leur étendard. L'étendard est par terre, puisque comme on avait expliqué, Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, qui tenait l'étendard des musulmans, a été tué. Ils vont chercher du regard le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne le trouve pas. On commence justement à expliquer pourquoi ils ne le trouvent pas, et on va expliquer plus en détail plus tard. Et enfin, ils vont entendre une rumeur que beaucoup vont croire, c'est le fait que le prophète Hassan a été tué. On a même un idolâtre qui dit « Ana qataltu Muhammad »« J'ai tué Muhammad » sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, beaucoup d'idolâtres pensent que le professeur Hassan a été tué, ça les galvanise. Et beaucoup de musulmans y croient également et ça les démoralise. À un tel point qu'il y a eu plusieurs réactions, comme on l'avait dit, certains qui ont fui jusqu'à Médine sans demander leur reste. D'autres se sont réfugiés sur la montagne de Uhud. D'autres se sont mis sur le côté en levant les bras comme s'ils voulaient se rendre. Et d'autres vont lutter jusqu'au bout, malgré le fait qu'ils sont persuadés que le professeur Hassan a été tué. À tel point que certains vont s'exclamer, et que faire de la vie? Qu'allons-nous faire de la vie après le prophète Mohammed Hassan? Si le professeur Hassan est mort, à quoi ça sert? À quoi bon vivre? Ala kulli hal, et le dernier grand événement parmi tout cet engrenage qui conduit à la défaite, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être gravement blessé dans cette bataille. Et ça, on a commencé à en parler la semaine dernière. Et on a dit, pour les blessures que va subir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet événement, pour bien l'étudier de fond en comble, on se pose 6 questions. La première question, c'est: est-ce que cet événement est authentique? Parce qu'on peut le trouver dans les livres d'histoire, comme on l'a déjà expliqué plein de fois. Mais est-ce que les spécialistes des chaînes de narration ont fait une enquête sur cet événement, sur les chaînes de narration, et ils l'ont authentifié, oui ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel type de blessure le professeur Hassim a subi? Est-ce que c'est une seule? Est-ce que c'est plusieurs? Et c'est quoi les blessures qu'il a eues? Troisième question, quelles ont été les causes de ces blessures? Les blessures, elles ont été causées par quoi? Par des armes? Si c'est par des armes, quelles sont ces armes? Par autre chose? Par quoi? Et ces trois premières questions, on y a répondu la semaine dernière. Et il nous reste trois autres questions. La quatrième question, c'est qui? Est-ce que c'est une personne ou plusieurs personnes qui ont causé ces blessures directement sur le professeur Hassim? Et si oui, qui sont-ils? Les connaît-on par leur nom? Cinquième question, quelle va être la réaction du professeur Hassim au moment où il va être blessé de toutes ces blessures? Sixième question, quelles vont être les réactions des compagnons qui sont autour de lui? Donc nous, on avait dit pour la première question, oui, c'est authentique. On a dit c'est rapporté dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim. Certaines versions, muttafaq alayha, c'est-à-dire que Bukhari et Muslim se sont accordés sur ces versions-là. D'autres versions ont été authentifiées uniquement par le Bukhari. D'autres versions ont été authentifiées uniquement par Muslim. Donc on en aura du choix dans les versions qui viennent... dans les versions authentiques qui viennent raconter en détail le fait que le professeur Hassan a été blessé. Et je ne parle même pas de toutes les versions qu'il y a dans les sunan, dans les recueils, qui pour certaines ont été authentifiées, pour d'autres ont été affaiblies, mais peu importe, l'événement a largement été authentifié. Donc, c'est un événement qui est arrivé, avec certitude. On a dit, deuxième question, quelles sont les blessures qui vont toucher le professeur Hassan? On a parlé du coup à la tête, puisque son casque va être brisé. Et des blessures au visage. Son visage va être ensanglanté. Son casque va être brisé et déformé à un tel point que les pointes de son casque vont rentrer dans ses joues. On a aussi sa lèvre. La lèvre... basse, la lèvre du bas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est enflée parce qu'elle a été blessée. On a l'incisive latérale du côté droit, que ce soit la lèvre ou l'incisive latérale, qui a été brisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd une de ses dents, son incisive latérale. Et toujours sur le visage, j'ai oublié d'y faire référence la semaine dernière, il reçoit aussi un coup, une blessure au front. Il reçoit ici un coup à l'épaule qui ne va pas le blesser à proprement parler. Ça ne va pas toucher sa peau parce qu'il a mis deux armures. Donc, il y a une des deux armures qui va céder, mais l'autre qui le protège encore. Mais le coup est tellement fort que son épaule va continuer à lui faire mal des semaines après le retour de Uhud. Et aussi une blessure au genou. Donc c'est beaucoup de blessures que le professeur Sima a subies. Par quelle cause? Et quelles armes? On a dit tout d'abord par un trou, par un piège. Les trous sont des pièges qui avaient été creusés par les idolâtres, et en particulier un idolâtre, comme on va y refaire référence aujourd'hui. Et aussi par des armes. On avait expliqué que bien des narrations, bien des versions, nous expliquent que le professeur Hassim va être bombardé de flèches. Mais on n'a aucune version, et ça on va y revenir plus tard probablement, on n'a aucune version qui vient nous dire de manière précise que le professeur Hassim a reçu ne serait-ce qu'une de ces flèches. Pourquoi? Parce que nombreuses sont les versions qui disent que, comme on le verra plus tard quand on va répondre à la sixième question qui est quelle va être la réaction des compagnons qui sont autour de lui quand le professeur Hassim va être blessé, eh bien on a beaucoup de ces versions qui nous disent que les compagnons vont tout faire pour recevoir les flèches à sa place. Non. Certains vont même dire « Nahri duna nahrika ya Rasulallah » ma poitrine avant ta poitrine au messager d'Allah. Quand le professeur Hassim il est tombé dans un trou, il tente de lever la tête et un des compagnons qui tente de le protéger et qui va perdre la vie là, il va se lever pour protéger le professeur Hassim et recevoir les flèches et il va lui dire « Nahri duna nahrika ya Rasulallah » ma poitrine avant la tienne au messager d'Allah. Non, mais ça, on aura le temps d'y revenir sur la réaction des compagnons. Radiallahu anhum ajma'in. Ensuite, parmi les armes, il y a les coups d'épée que le professeur Asmas a reçus, les coups de lame, les coups d'épée, que ce soit sur l'épaule, que ce soit sur le visage. Et on a aussi les coups de pierre qu'il va recevoir, puisqu'il y en a même qui le bombardent de pierre quand il est tombé dans le trou. Et c'est probablement une de ces pierres qui va déformer le casque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en plus du coup de lame qu'il a reçu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question qui nous dit qui est-ce qu'il y a des personnes citées dans les versions dont on connaît les noms qui ont causé directement les blessures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes du camp idolâtre qui ont causé les blessures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si oui, qui sont-ils ? Parce qu'on a deux options. C'est soit c'était tellement le brouhaha, il y avait beaucoup de monde, qu'il y a bien des gens qui ont causé directement ces blessures, mais on ne sait pas qui. Ou alors on a des versions, parce qu'on a des témoignages, de personnes qui ont vécu cet événement et qui savent nous dire, parce qu'ils ont vu, c'est un tel qui a fait telle chose. Ou parce que le professeur Sam lui-même a reçu ses coups. Et après, lui, il va survivre à la bataille de Uhud, et peut-être que lui-même raconte qui l'a touché et qui l'a blessé. On a, quand on essaye de faire des recherches sur tous les livres d'histoire qui parlent de la biographie du professeur Sallam et toutes les versions sur cet événement des blessures du professeur Sallam, on a en tout et pour tout 4 personnes qui sont citées, qui vont causer des blessures différentes, de manière directe, de manière indirecte. Parmi ces 4 personnes, il y en a une qui est citée pour avoir causé de manière indirecte des blessures au professeur Sallam, et on en a 3 qui sont cités pour avoir causé de manière directe, pour avoir porté directement des coups au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par celui qui a causé de manière indirecte des blessures au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, c'est Abu Amir al-Fasiq. J'ai déjà parlé plusieurs fois de lui, et j'ai expliqué que Abu Amir al-Fasiq était surnommé avant l'émigration, il était surnommé Abu Amir al-Rahib, Abu Amir le moine. Sous-entendu, c'était pas un chrétien, mais sous-entendu, une personne qui est sage, qui est exemplaire, qui est un modèle pour les siens. C'est pour ça qu'on l'appelait, on le surnommait al-Rahib, le moine. Sauf que lorsqu'il était respecté, il était un chef parmi les Médinois. Sauf que lorsque le professeur Sim va arriver, il va fuir à la Mecque, en particulier après la bataille de Badr, et il va ouvertement déclarer son hostilité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va promettre à Abu Sufyan et s'engager auprès d'Abu Sufyan que lorsque la bataille viendra de la revanche de Badr, il sera là pour convaincre les Médinois de retourner chez eux. Et il dira à Abu Sufyan, ma parole elle est écoutée, ne t'inquiète pas. Quand ils viendront pour vous affronter, ou quand on ira nous les affronter, puisque c'est eux qui préparent la revanche, s'il y a des Médinois, je les convaincrai de faire demi-tour. Et là, quand la bataille de Uhud arrive, Abu Sufyan lui dit, parce qu'Abu Sufyan il va d'abord parler lui-même avec les Médinois, il va se présenter devant l'armée des musulmans, il va dire, Ya ma'ashar al-Ansar, ô vous les Médinois, nous n'avons aucun problème avec vous et nous ne voulons pas en avoir. Nous avons un problème à régler avec quelqu'un de notre famille, avec nos cousins. Ce sont les fils de notre tribu et les fils de nos oncles. C'est avec eux que nous avons un problème. C'est-à-dire, c'est une querelle familiale, une querelle tribale à la rigueur, qui ne vous concerne pas. Retournez chez vous. Et ça, c'est une sorte aussi de propagande pour essayer de démoraliser les troupes. Parce que ça peut aussi semer la division et la zizanie. Mais les Médinois, les compagnons de Médine, vont lui faire entendre qu'ils sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons de Muhajiroun, les émigrants de la Mecque, jusqu'au bout. Et donc Abu Sufyan, à ce moment-là, il va aller chercher Abu Amir Al-Fasiq, qui est aussi le père de Hanzala ibn Abi Amir. Si vous vous rappelez, on avait dit que Hanzala ibn Abi Amir, la nuit où l'armée part pour Uhud, c'est sa nuit de noces, il vient de se marier. Il quitte son épouse. Alors qu'il a mille et une bonnes raisons de rester, il quitte son épouse, il quitte son mariage, il quitte sa nuit de noces pour rejoindre l'armée. Et il sera tué dans la bataille de Uhud. À un tel point qu'il n'a même pas eu le temps, au moment où il est sorti, de faire ses grandes ablutions, de faire le lavage rituel. Et les textes nous disent qu'il sera surnommé Rasil al-Malaika, celui qui a été lavé par les anges. C'est les anges qui le lavent. Non. Ala kulli hal, donc son père, là on parle de son père qui était un hypocrite, puisque on va reparler de lui plus tard dans d'autres événements, mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais pour l'instant il n'est pas hypocrite, pour l'instant il montre clairement son hostilité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abou Soufiane lui dit, alors qu'est-ce que tu m'avais promis? Tu m'avais promis que tu allais convaincre les Médinois de repartir. Et donc il va venir, il va se présenter devant les Médinois, il va leur dire, oh vous les Médinois, est-ce que vous me reconnaissez? Et là ils vont lui dire, oui on te reconnaît. Abou Amr al-Fasiq, Abou Amr le corrompu. Alors qu'avant ils le surnommaient eux-mêmes Abou Amr al-Rahib, le moine. Et là maintenant ils le surnomment le débauché, le corrompu. Et donc à ce moment-là, Abou Amr al-Fasiq, il ne va même pas essayer de leur parler, il va comprendre que vu comment il le surnomme, que la cause elle est perdue, donc il va retourner voir Abou Soufiane, il va dire Laqad asaba qawmi min ba'di shar. Il est arrivé à mon peuple, après moi, après mon départ, quelque chose de grave, je ne peux plus rien faire. Et ce Abou Amr al-Fasiq, parmi les autres choses qu'il va faire à la bataille de Uhud, c'est qu'il va discrètement creuser des trous pour que les musulmans trébuchent sur le champ de bataille. Il va creuser des trous et il va les cacher, il va les montrer au camp idolâtre. De ce côté-là, faites attention, il ne faut pas aller de ce côté-là, mais essayez d'attirer les musulmans de ce côté-là, parce que si vous les attirez de ce côté-là, j'ai fait des trous, ça va les faire tomber dans ces trous ou trébucher pour qu'ils tombent, et à ce moment-là vous aurez le dessus plus facilement, parce qu'entre combattre quelqu'un qui trébuche ou qui est par terre ou qui est dans un trou et combattre quelqu'un qui est face à face debout, c'est beaucoup plus difficile. Non. Et donc, pourquoi je rappelle tout ça sur Abou Amr al-Fasiq? Tout simplement parce qu'Abou Amr al-Fasiq, on sait que le professeur sallam, selon une narration rapportée par Ibn Ishaq, même si elle n'est pas jugée authentique, alors, je vais le dire une fois comme ça sera fait, dans toutes les versions qu'on va citer aujourd'hui, pour les quatre personnes, toutes ont des faiblesses dans la chaîne de transmission. Il n'y en a aucune qui est authentique. Mais tous ces noms et tous les détails dont on va parler dans ces narrations sont reprises par les historiens, par les spécialistes de la vie du professeur Asselin. Mais par honnêteté intellectuelle, on précise qu'elles ne sont pas authentiques. Donc on n'a pas la certitude que ces personnes-là, ce sont bien eux qui ont causé les blessures du prophète Mohammed Asselin. Ce n'est pas une certitude, c'est une probabilité. Non. Donc Abou Amr al-Fasiq, selon cette narration et cette version qui est rapportée par Ibn Ishaq, on nous dit « Wa waqa'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hufratin min al-hufari allati 'amilaha Abu Amir liyaqa'a fiha al-muslimun wa hum la ya'lamun. » Cette version elle nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans l'un des trous qui a été fait par Abu Amir et qu'Abu Amir avait fait pour que les musulmans tombent dedans sans qu'ils ne sachent qu'il y avait des trous, qu'il fallait faire attention. Et c'est ce qui a, comme on l'avait dit la semaine dernière, très probablement causé la blessure qu'il va avoir au genou. Enfin, ça a été blessé, on parle de griffes. Enfin, jahashat rokbatuhu, ça veut dire que il y a des griffes, hein, sorte de quelque chose qui a, entre guillemets, usé la peau, comme quand on glisse et qu'on tombe par terre. Donc il y a une blessure au genou. Taïb. Ça, c'est ce qu'on peut dire à propos d'Abou Amr al-Fasiq. Sur cette blessure causée indirectement par ce qu'il a commis, c'est-à-dire par le trou qu'il a creusé. Ensuite, Le deuxième homme qu'on peut citer, c'est un homme qui est cité, à ma connaissance, uniquement par Ibn Ishaq. Par Ibn Ishaq. Et qui est repris, le texte de Ibn Ishaq est repris tel quel par Ibn Hajar al-Asqalani dans son ouvrage Fath al-Bari. Donc il le reprend sans dire quoi que ce soit, sans dire c'est authentique ou c'est pas authentique. Cet homme qui est repris dans cette narration, s'appelle Abdullah ibn Shihab al-Zuhri. Et cette version, elle nous dit « Wa anna Abdullah ibn Shihab al-Zuhri shajjahu fi jabhatihi » Dans cette version, on nous dit que Abdullah ibn Shihab al-Zuhri a balafré, il a blessé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fi jabhatihi, sur son front. Mais on n'en sait pas plus. Et comme je vous ai dit, cette version n'est pas authentifiée. Et en plus, on n'en sait pas plus. Il n'y a aucun autre détail que j'ai pu trouver sur cet homme et sur le fait qu'il aurait, lui, directement porté le coup que le professeur Salem a reçu sur le front. Par contre, son nom ressemble étrangement à un grand savant parmi les Tabiri, donc une génération après les compagnons, qui lui aussi s'appelle Ibn Shihab al-Zuhri, qui va être un des professeurs de l'imam Malik. Et j'ai juste retrouvé dans une version d'un biographe qui dit que s'ils portent le même nom, c'est parce qu'en fait, ils ont le même ancêtre. Et que ce Abdullah ibn Shihab al-Zuhri serait, selon ce biographe, l'arrière-grand-père ou le grand-père de ce grand savant connu aussi sous le nom de Ibn Shihab al-Zuhri. Ala kulli hal, on ne va pas ouvrir cette parenthèse pour ne pas nous éloigner, nous éparpiller. En tous les cas, ce deuxième homme est cité dans cette version. Comme quoi il aurait porté le coup que le professeur Sam et la cicatrice qu'il va recevoir au front. Troisième homme qui est cité, c'est Utba ibn Abi Waqqas. Comme son nom l'indique, c'est le frère du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc là, on parle de Utba ibn Abi Waqqas comme étant quelqu'un qui fait partie des idolâtres, puisqu'on parle des personnes qui ont causé directement les blessures du professeur sallam. Et Utba ibn Abi Waqqas est cité dans plusieurs versions. Et lui, par contre, on a plus d'informations sur lui, puisque d'abord, on connaît son frère. On le connaît à travers son frère, Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ça, c'est important de le rappeler parce que, comme je l'avais rappelé pendant la bataille de Badr, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait dédié tout un épisode à ça. On avait donné plusieurs exemples sur les personnes qui étaient dans le camp des musulmans à Badr et qui se retrouvaient face à face avec des gens très proches, avec des frères, avec des pères, avec des oncles, avec des cousins, et qui se combattaient. C'est-à-dire, c'est une double, c'est la double peine. Non seulement on nous combat parce qu'on ne veut pas nous laisser notre liberté religieuse, et en plus ceux qui nous combattent et qui nous poussent à les combattre parce que nous devons nous défendre, ce sont des gens de notre propre famille. Et c'est quelque chose qui va se reproduire dans toutes les batailles. Dans toutes les batailles avant la libération de la Mecque, c'est quelque chose qui se reproduit. Puisque les principales batailles, elles concernent le camp de Médine et le camp de la Mecque. Et donc, souvent, dans les expéditions, dans les batailles, on a des gens qui se retrouvent face à face et qui sont de la même famille. Ici, on a deux frères qui se retrouvent face à face. Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est un des meilleurs compagnons du professeur Hassan. Et Utba ibn Abi Waqqas, qui va carrément causer cette blessure, une des blessures directement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à propos de ce détail-là, sur le fait qu'il va causer des blessures au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a plusieurs versions. Je vais me contenter de deux versions, qui sont tous les deux racontées et narrées par Ibn Ishaq, historien Ibn Ishaq. Il nous dit, Ibn Ishaq, Rama Utbah ibn Abi Waqqas Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, afwan. C'est la deuxième version d'Ibn Ishaq, mais d'abord la première, c'est Fadutha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil hijara fa usibat raba'iyatuhu. وشج في وجهه وكلمت وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص. Donc cette version elle nous dit, selon Ibn Ishaq, que دُثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَارَةِ، le prophète صلى الله عليه وسلم a été bombardé de pierres. Ça, on l'avait expliqué, que parmi les choses qui vont blesser le prophète صلى الله عليه وسلم, il y a des pierres. Et donc cette version elle nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a été bombardé. Death, ici, le verbe دَثَّ يَدُثُّ, ça veut dire faire pleuvoir. Donc on a fait pleuvoir sur lui des pierres. Puisque les idolâtres, quand ils se rendent compte qu'ils ont pris en étau le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a trébuché dans un des trous, dans un des pièges, et qu'il n'y a plus que quelques compagnons qui se comptent sur les doigts de la main, comme on le verra plus tard, qui sont autour de lui, tout ce qu'ils ont, ils vont le lancer. Les flèches, les pierres, les épées, les lances, les boucliers, tout ce qu'ils ont, ils le balancent dans ce trou pour être sûr qu'il tue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. Le prophète صلى الله عليه وسلم est bombardé de pierres. فأصيبت رباعيته. Son incisive va être brisée. Selon cette version, à cause de ses coups de pierre. فأصيبت رباعيته وشج في وجهه. Il va être balafré, il va avoir des cicatrices, des coups au visage à cause de ses coups de pierre. فشج في وجهه وكل ما شفته، et sa lèvre va être blessée également par ses coups de pierre. عليه الصلاة والسلام. Et donc la version elle nous précise وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص، et celui qui va réussir à le toucher, sous-entendu avec ses pierres, c'est عتبة ابن أبي وقاص. Non. La deuxième version qu'on peut citer, même s'il y en a d'autres, mais on se contentera de ces deux-là, c'est que Utba, la deuxième version toujours rapportée par Ibn Ishaq, il nous dit Rama Utbatu Ibn Ishaq Rama Utbatu Ibn Abi Waqqas Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Fakasara Raba'iyatahu و عفوا فشجه في وجهه وكسر رباعيته. نعم، la version elle dit plutôt précisément selon Ibn Ishaq رمى عتبة بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته السفلى اليمنى وجرح شفته السفلى. Qui veut dire que selon Ibn Ishaq, Utba ibn Abi Waqqas a visé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais viser, ça peut être avec une épée, ça peut être avec une lance, ça peut être avec une flèche, ça peut être avec une pierre, ça peut être avec toute autre arme réelle ou arme de substitution. Mais nous, la version qu'on a citée précédemment, elle nous laisse entendre que ce que le Utba ibn Abi Waqqas a utilisé, ce sont des pierres. Et donc, si on en croit la version précédente, Utba ibn Abi Waqqas, il aurait visé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une pierre, et à cause de ce coup de pierre qu'il lui met, kasara raba'iyatahu as-sufla al-yumna, il casse son incisive basse et du côté droit, l'incisive latérale. Rabaïa, comme on l'a dit la semaine dernière, ça veut dire l'incisive latérale. Parce qu'en français, les quatre premières dents, là, on appelle ça les deux premières, les dents, les incisives centrales, et les deux qui suivent, les incisives latérales. C'est pas qu'elle a la tête pour les noms. On garde incisive, juste on dit centrale et latérale. Alors qu'en arabe, les deux premières, elles s'appellent Al-Thanaya, et les deux qui suivent, elles s'appellent Al-Rabaïyat. Ensuite, il y a l'aniyab, les canines. Ensuite, il y a l'arha, ce qu'on appelle en français les prémolaires. Et ensuite, il y a l'nawajid, les molaires et les dents de sagesse. Non. À la kulli hal, fa kassara raba'iyatahu فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى. Et il va blesser aussi sa lèvre basse, sa lèvre du bas. Donc on se contente de ces deux versions qui nous donnent ces détails. Utba ibn Abi Waqqas aurait, j'utilise le conditionnel parce que les versions ne sont pas authentifiées, aurait visé le prophète sallam avec les pierres et il l'aurait touché au visage. À un tel point que c'est ce qui a causé la perte de la dent du prophète sallam, l'incisive latérale gauche du côté bas, et la blessure qu'il reçoit à la lèvre gauche. Non. Et si on veut dire ce qu'on sait à propos de Utba ibn Abi Waqqas, on a dit on sait que c'est le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, la plupart des historiens s'accordent à dire que Utba ibn Abi Waqqas, il va blesser directement le prophète sallam avec les pierres, comme on l'a dit, et que par la suite, il va être tué. Et ça, je le réserve pour plus tard, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ça, mais il va être tué dans la bataille de Uhud. C'est la version que rapportent la plupart des historiens. Mais par contre, on peut trouver ici et là des versions qui disent qu'il mourra plus tard, après la bataille de Uhud. Mais c'est une version minoritaire chez les historiens. De toute façon, les deux ne sont pas authentifiés. Ni celle qui dit qu'il a été tué à Uhud, ni celle qui dit qu'il va mourir plus tard, après la bataille d'Uhud. Mais celle qui est la plus reprise et qui est la plus répandue chez les historiens, donc celle qui est la plus rassurante et en laquelle font la plus confiance les historiens et les savants de l'islam, c'est celle qui consiste à dire qu'il va être tué à Uhud. On peut même retrouver une version extrêmement marginale qui dit carrément que Utba ibn Abi Waqqas va mourir musulman et qu'il va finir par devenir compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le savant Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nous dit le seul savant à avoir dit ça, c'est Ibn Minda. Il est le seul, selon lui, dans les recherches qu'il a fait, à avoir dit ça. Et donc, pour lui, c'est une version à ne pas prendre. Yarni, selon toute vraisemblance, Utba ibn Abi Waqqas n'est jamais devenu compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la troisième personne. On a dit première personne, Abu Amir avec le trou, les trous qu'il a creusés. Deuxième personne, Abdullah ibn Shihab al-Zuhri, en mettant le coup sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième personne, Utba ibn Abi Waqqas, en visant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les pierres et en touchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses tirs de pierre et en le blessant au visage et en brisant une de ses dents et en blessant sa lèvre du bas. À présent, il nous reste la quatrième et dernière personne. Cette quatrième et dernière personne, c'est Abdullah ibn Qami'a. Et beaucoup de livres ne s'intéressent pas à ces quatre personnes. Par exemple, les livres qui racontent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne rentrent pas trop dans le détail, ils ne vont pas citer ces quatre personnes. Ils en citent qu'un, ils en citent ce dernier, parce que c'est celui qui est le plus repris, comme étant celui qui a directement porté des coups avec son épée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui les a revendiqués. On a beaucoup de versions sur lui, même si elles n'ont pas été authentifiées comme je l'ai dit au début. Mais nous, on va se contenter de quatre versions qui sont citées à propos de Abdullah ibn Qami'a. Une version chez Ibn Ishaq, une version chez Tabarani, une version rapportée par Ibn A'id et qu'on retrouve chez le savant Ibn Hajar al-Asqalani dans son ouvrage Fath al-Bari. Et ce que nous raconte le Mubarak Fouri dans le Nectar Cacheté ou le Joyau Ultime, Rahiq al-Martou. Commençons par la version d'Ibn Ishaq. On nous dit Anna Abdallah ibn Qami'a jaraha wajnatan nabi sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit c'est Abdullah ibn Qami'a dans la version d'Ibn Ishaq qui a blessé la joue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui aurait blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa joue. Alors le wajna en arabe, c'est pas la joue. Les mots en arabe, ils sont très précis pour chaque détail. La joue, c'est ça. Et le wajna, c'est ce qu'il y a juste au-dessus. C'est ce qu'il y a entre la joue et les cernes. Cet endroit-là où il y a l'os, Hein? C'est ce qu'on appelle le wajna en arabe. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français ou si ça fait partie de l'ajout en français. Allahu a'lam. Donc je le traduis par l'ajout, mais en tout cas, si on veut vraiment être précis, le wajna, c'est ici. Non. Donc le wajna, c'est ce qui se trouve entre l'œil et l'ajout. Ala kulli hal, ce n'est pas un cours d'anatomie. Donc on revient à la version d'Ibn Ishaq. Shajja wajnatahu, ou jaraha wajnatahu. Il a blessé sa joue. C'est la première version. La deuxième version, celle de Tabarani. On nous dit Rama Abdullah ibn Qami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. Abdullah ibn Qami'a, il va viser le professeur sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud. Il va viser le professeur sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud. Et il va فجرح وجنته فشجه في وجهه وكسر رباعيته. Il va blesser, balafrer sa joue et il va casser sa dent. ويقول, donc cette version elle prétend aussi que ce serait lui qui aurait causé ça. Comme je vous ai dit, les versions ne sont pas authentiques, donc on ne peut pas avoir la certitude de qui a vraiment causé le fait qu'il perde sa dent et que sa lèvre est enflée. Et il va dire « Khudha wa ana ibn Qami'a » « Prends-la » C'est-à-dire, il s'adresse au professeur sallam et il dit « Prends ça de moi »« Khudha » « Prends-le » Il lui donne le coup et il lui dit « Prends-le » « Wa ana ibn Qami'a » Et je suis Ibn Qami'a. Il veut qu'on sache qui il est. Il le revendique. C'est vous dire la haine qu'ils avaient contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avec le casque et tout ça, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaît. Il sait qui il est. Et peut-être qu'avec le casque et tout ça, il ne va pas le reconnaître. Donc il lui dit « Khudha wa ana ibn Qami'a ». Il en est fier, il le revendique. « Prends-le et sache qu'elle vient de Ibn Qami'a ». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله كتُ كالله تجت يعني le terme قمأ lui s'appelle Ibn Qami'a mais le verbe en arabe قمأ يقمئ ou يقمأ ça veut dire jeter, balancer quelque chose, jeter à la poubelle. Et donc le professeur lui dit ما لك أقمأك الله qu'as-tu qu'Allah te jette? Et sa dua, selon cette version, elle va être exaucée, puisque la version, elle nous dit que par la suite, فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَبَلٍ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَبَلٍ فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً. Et Allah Azzawajal va lui envoyer un bouc de montagne. Vous savez, les chèvres là, avec leurs cornes qui vivent sur les montagnes et qui sont capables, même dans les trucs raides, ajib, yani, d'escalader comme s'ils avaient des aimants ou de la colle forte au niveau des sabots. Ajib, yani. Eh bien, Allah lui envoie un bouc comme ça qui va le frapper et il ne va cesser de le frapper. Hatta qata'ahu qit'atan qit'a. Un tel point qu'il va le découper en morceaux. Yani. Il va le laisser en lambeaux. Troisième version, c'est la version d'Ibn A'id qui est reprise par Ibn Hajar al-Asqalani dans son ouvrage Fath al-Bari, dans lequel on nous dit أن الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجه في وجهه قال خذها مني وأنا ابن قميئة. Cette version, elle vient dans le même sens que la précédente. Elle dit celui qui a visé le professeur Samé, qui l'a blessé à son visage, il a dit خذها مني, prends ça de moi, وأنا ابن قميئة. Et je suis Ibn Qami'a, comme on l'a dit, il le revendique. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, tout en essuyant le sang qu'il y avait au visage, أقمأك الله, qu'Allah te jette. فانصرف إلى قومه. Et par la suite, Ibn Qami'a, après la bataille, il retourne chez lui. فخرج إلى غنمه. Et après être rentré chez lui, il va à la recherche de ses moutons qu'il avait laissés dans un endroit pour qu'ils puissent paître. C'est ce que Quelquefois, ils faisaient, yani les bergers de l'époque, soit ils accompagnaient leurs troupeaux, soit aussi c'est des endroits où ils savaient qu'ils étaient à peu près sûrs, ils les laissaient là quelques jours, et ensuite ils venaient les récupérer. Donc il dit, il va récupérer ses moutons. La version nous dit, il va pour récupérer ses moutons. Et il les trouve qu'ils ont escaladé une montagne. Et il les rejoint sur cette montagne. Et un bouc de montagne va venir l'attaquer. Et il va lui mettre un coup de corne tellement fort. Qui va le balancer, comme le professeur Sam l'a demandé, qu'Allah te balance. Qui va le balancer, qui va le jeter du haut de la montagne, et il va tomber en lambeaux sur le sol. Et quatrième et dernière version qu'on peut citer à propos de Ibn Qami'a, c'est ce que nous raconte le Mubarak Fouri dans son livre Rahiq al-Maktoum. Il dit que Abdullah ibn Qami'a, il va donc frapper le professeur sallam au visage, il va le revendiquer, il va dire Khudha minni wa ana ibn Qami'a. Le professeur sallam va lui répondre Aqma akallah, qu'Allah te jette. Et cette version, elle nous donne un détail, c'est que Abdullah ibn Qami'a, il y a Mus'ab ibn Umair, c'est à ce moment-là qu'il va perdre la vie, qu'il aurait perdu la vie. C'est lui qui porte l'étendard des musulmans. Parce qu'en fait, quand Abdullah ibn Qami'a vient frapper le prophète sallam, Mus'ab ibn Umair vient défendre le prophète sallam. Et il va finir par être tué par Abdullah ibn Qami'a. Et ensuite, on avait d'autres versions qu'on avait citées précédemment, quand on avait parlé de la rumeur de la mort du prophète sallam, qui nous disent que c'est Abdullah ibn Qami'a qui a dit « J'ai tué le prophète sallam ». Certaines versions qui disent « Parce que Mus'ab ibn Umair ressemble au prophète sallam et donc avec les casques, il s'est probablement trompé, il a pensé qu'il a tué le prophète sallam alors qu'il a tué Mus'ab ibn Umair. » Mais cette version, elle n'est pas authentifiée, mais elle dit ça, c'est une supposition. Mais nous, avec tous les éléments qu'on a, on peut aussi supposer autre chose. On peut supposer que, en frappant le prophète sallam et en laissant pour mort le Mus'ab ibn Umair, il peut avoir vraiment pensé que c'était le coup qu'il a mis au prophète sallam, c'était bien le prophète sallam. Et il pense peut-être qu'il l'a tué parce qu'il y a une confusion, il est dans le trou, etc. Il y a des blessures, il y a du sang, donc peut-être qu'il pense l'avoir tué. Et aussi, comme Mus'ab ibn Umair le défend, une des suppositions, c'est celle qui a été citée dans la version, c'est-à-dire que Mus'ab ibn Umair, il pense que c'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la Kulihal, tout ça pour dire que quatre personnes sont citées pour avoir causé directement les blessures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Amir, avec les trous qu'il a creusés. Abdullah ibn Shihab Zuhri, avec le coup qu'il a mis au front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Utbah ibn Abi Waqqas, avec les pierres qu'il a jetées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Qami'a, avec les coups d'épée qu'il a mis sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a répondu à cette question, à la quatrième question. Il nous reste à présent la cinquième question. La cinquième question, c'est quoi? C'est quelle va être la réaction du professeur Hassan? Comment le professeur Hassan va réagir? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.